Pictura Poésie présente un nouvel épisode de son podcast « Chambre avec vue ».
Aujourd'hui, on se penche sur un détail minuscule, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. Le fameux petit pan de mur jaune de Proust.
Ah oui, un détail fascinant.
On va explorer ça à travers des extraits de La Prisonnière, bien sûr, mais aussi en regardant la vue de Delphes, de Vermeer, et même avec un éclairage de Wittgenstein.
C'est ça. L'idée, c'est de voir comment ce petit rien concentre des questions énormes sur l'art, la perception et même la mort.
Notre objectif, c'est vraiment de comprendre la puissance de ce détail. Qu'est-ce qu'il révèle au fond ?
Exactement. On va essayer de démêler tout ça en suivant le fil des textes et des analyses qu'on a.
Alors, commençons par Proust. La scène clé, c'est avec Bergotte, l'écrivain. Il est malade, n'est-ce pas ?
Oui, très malade. Et il décide, presque sur une impulsion, d'aller revoir cette vue de Delphes de Vermeer, un peintre que Proust adorait.
Et pourquoi ce tableau spécifiquement ?
Eh bien, il est une critique qui mentionne un détail qu'il ne se rappelait pas, ce fameux petit pan de mur jaune.
Ah, voilà.
Le critique en parle comme d'une chose sublime, presque comme une précieuse œuvre d'art chinoise, tellement c'est parfait en soi.
Et pour Bergotte, c'est une déflagration.
Complètement. Devant ce petit bout de mur jaune, il a une sorte de révélation esthétique. Il compare ça à ses propres livres.
Il se dit « c'est ainsi que j'aurais dû écrire ».
C'est ça. Il trouve ses livres trop secs. Il aurait voulu, comment dire, plus de couches, plus de matière dans ses phrases. Rendre la phrase elle-même précieuse comme ce jaune.
C'est terrible et beau à la fois.
Et tragique, parce que c'est à ce moment précis, submergé par cette vision de l'idéal et peut-être par le regret, qu'il s'effondre.
Il meurt là, devant le tableau.
Il meurt là. L'expérience esthétique ultime qui précède la fin.
Parlons un peu de ce tableau alors. La vue de Delft, il date des années 1660. On peut le voir au Mauritshuis. C'est une vue de ville très calme.
Très calme, oui. Une atmosphère incroyable. Et techniquement, bon, c'est du Vermeer, une maîtrise de la lumière, de la composition, ciel, ville, reflet dans l'eau, tout est équilibré.
Et sa technique particulière, on parle souvent des textures, de la lumière.
Ah oui, il travaille par couches très fines, successives. Sa palette est limitée, mais éclatante. Il y a ce rendu des matières, le crépi, l'eau, et puis ces fameux pointillés.
Ces petites touches de lumière.
Exactement. Des petites touches de blanc de plomb, souvent, qui accrochent la lumière et donnent une vibration unique. On pense aussi qu'il utilisait peut-être une caméra obscura.
Une chambre noire, oui, pour la perspective.
Voilà, pour obtenir cette justesse presque photographique.
Mais alors, revenons à notre pan de mur jaune. Est-ce qu'il est vraiment là, sur la toile ? C'est pas si clair, apparemment.
Non, ce n'est pas si clair. C'est un vrai débat. Certains experts pensent l'avoir localisé. Sur un toit, peut-être, près de la porte de Rotterdam, un endroit où le soleil tape.
D'accord.
Mais d'autres, comme la théoricienne Miko Ball, par exemple, avancent une idée plus troublante.
C'est-à-dire ?
Que ce serait peut-être une figuration purement linguistique. Autrement dit, quelque chose qui n'est plus des mots du critique, ou de Proust, que de la peinture elle-même.
Une sorte de création par le langage ?
Une sorte de mirage créé par le discours sur l'œuvre, oui. Ce qui rend l'expérience de Bergotte encore plus fascinante et complexe.
Et c'est là que Wittgenstein entre en jeu, si j'ai bien suivi les sources ?
Oui, on peut faire un lien intéressant. Surtout avec le premier Wittgenstein, celui du Tractatus Logico-Philosophicus. Il fait cette distinction célèbre entre ce qu'on peut dire,
ah oui,
ce qui relève de la logique, des faits,
exactement,
et ce qui ne peut être que montré. L'éthique, l'esthétique, le mystique, ça se montre. Ça ne s'énonce pas comme une proposition scientifique.
Donc, la beauté du pan de mur jaune, pour Bergotte, ce serait de l'ordre de l'indicible, de ce qui se montre.
C'est une lecture possible, oui. L'expérience esthétique intense, directe, qui dépasse les mots.
Mais on en parle pourtant. Et le Wittgenstein plus tardif, il nuance ça, non ? Avec les jeux de langage.
Tout à fait. Dans les investigations philosophiques, il insiste sur le fait que le sens des mots, y compris pour parler d'art, dépend de leur usage dans des contextes, des pratiques culturelles, nos jeux de langage.
L'interprétation n'est pas fixée une fois pour toutes.
Non.
Elle dépend de comment on utilise les mots, de ce qu'on fait avec l'œuvre. Donc ce petit pan de mur jaune, il devient ce point de rencontre entre l'objet, réel ou imaginé, peu importe presque, et le regard du spectateur façonné par ces jeux de langage partagés.
Ce qui compte, c'est ce que le détail déclenche.
Voilà. C'est ce qu'il active chez Bergotte et chez nous lecteurs. Et ça renvoie à des thèmes très forts chez Proust.
Comme la mort et l'immortalité. Bergotte meurt, mais ses livres restent.
Oui, Proust utilise cette image des livres comme des anges, qui assurent une forme de résurrection pour l'artiste. La fragilité de la vie contre la pérennité de l'art.
Il y a aussi l'importance de l'expérience sensorielle, non ? Un détail visuel qui provoque une crise, une révélation. Absolument. L'art qui transcende le quotidien pour toucher à une vérité plus profonde, plus personnelle. Et bien sûr, ce pan de mur devient le symbole de la quête.
De la perfection artistique.
De cet absolu que recherchent les artistes, comme Vermeer, comme Bergotte, comme Proust lui-même.
Donc pour résumer, on part d'un détail presque invisible sur une toile, ou peut-être même inventé. Et ce détail, magnifié par l'écriture, ouvre sur des abîmes de réflexion, la création, comment on perçoit, les limites du langage face à la beauté et notre propre finitude.
C'est une interaction constante entre l'œuvre, l'artiste, le regardeur, le critique. C'est ça qui crée le sens, finalement.
Et ça nous laisse avec une question, peut-être un peu vertigineuse.
Oui. Est-ce que ça change vraiment quelque chose, au fond ? Que ce petit pan de mur jaune soit matériellement sur la toile de Vermeer ou qu'il soit une étincelle dans l'œil de Bergotte, dans les mots de Proust ? Est-ce que ça change la puissance de sa signification, la vérité de l'expérience esthétique qu'il révèle ?